mais dans la globalité, une femme aura toujours des tendons moins raides qu'un homme. Donc, c'est quand même plus sujet aux tendinopathies. L'alimentation semble également favoriser l'apparition des pathologies tendineuses, notamment l'alimentation. Les ondes de choc, la science a montré un intérêt. Enfin, deux intérêts.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet de l'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres ? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abats. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Et bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de 1000%. On a le plaisir de recevoir un confrère. Je pense que c'est la première fois qu'on reçoit un confrère d'ailleurs dans 1000%. On est avec Valentin Copin pour parler de tendons. Valentin, comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va nickel, hein. Ça va nickel, fin de journée, je suis prêt, parlons tendons.
Et forcément accompagné de Vincent, de l'équipe 1000%. La forme, Vincent ?
Bah ouais, en forme. Pour rectifier, je pense qu'on a eu Blaise Dubois qui est physio au Canada et qui est très très chaud.
Exact. Mais du coup, on a le plaisir de recevoir un confrère français cette fois-ci. Niçois de surcroît. Pour rentrer dans le vif du sujet, on parle de tendons. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce qu'on parle exactement comme structure ?
On parle d'une structure qui relie, donc c'est une jonction mécanique en fait. Ça fait le pont entre une structure dure qui va être l'os et une structure molle qui va être le muscle. Et le principe même du tendon, ça va être d'emmagasiner les forces qui sont produites par le muscle et de les véhiculer jusqu'à l'os pour le faire bouger et du coup produire le mouvement.
Et souvent on dissocie les structures, tu sais, tendon, muscle, os. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce continuum qu'il y a ? On a eu la chance de recevoir le docteur Guimberto. Je ne sais pas si ça te parle, je pense que oui. Comment tu vois ce continuum ? Est-ce que le tendon, il vient d'un point A à un point B, le muscle, il commence au point B, et l'os, ou est-ce que tu vois vraiment ce continuum entre les différentes structures ?
Ouais, bah, en fait, ce n'est pas moi qui vois, hein. C'est que quand on regarde les études microscopiques, on voit bien qu'il n'y a pas une frontière, tu vois, il n'y a pas une frontière qui est tracée toute droite entre là, je suis dans du tissu osseux et là, du coup, je suis dans du tissu tendineux. Rien que si on prend l'enthèse, donc l'enthèse, c'est l'insertion du tendon dans l'os, on a 4 couches, 4 phases qui permettent de faire cette transition justement du tissu dur, donc l'os, vers le tissu bah, du coup plus mou qui est le tendon. Et on voit bien qu'il y a un continuum qui se fait où en fait, on va avoir... des cellules osseuses avec des minéraux qui constituent l'os. Et puis d'un coup, on a moins de structures osseuses, moins de cellules osseuses, mais toujours des minéraux. Mais on commence à avoir des cellules fibrocartilagineuses, donc un peu de cartilage et un peu de fibres. Puis on va avoir d'un coup moins, enfin, quasiment plus de cellules osseuses et on va avoir que des cellules fibrocartilagineuses et du collagène qui va apparaître. Puis on va retrouver plus de collagène et des cellules tendineuses. Et après, on aura quasiment que des cellules tendineuses et que du collagène pour arriver à l'autre bout où progressivement on aura de moins en moins de cellules de tendineuses pour avoir des cellules musculaires et il y aura de moins en moins de collagène, parce que le tendon, c'est 80-90% de collagène. Le muscle, on est à 8-10% de collagène. Donc, on va avoir une contenance en collagène qui va diminuer au fur et à mesure pour donner ensuite la fibre musculaire et le muscle. Mais il y a clairement une continuité, parce que le tendon, une fois arrivé dans le muscle, il va se diviser en ce qu'on appelle du coup les fascias musculaires ou les tissus intramusculaires, le tissu conjonctif, donc épimysium, périmysium, endomysium, qui vont se prolonger dans le muscle, qui vont permettre d'être l'échafaudage du muscle, d'accord, qui va former la structure du muscle, et qu'on va retrouver en fait à l'autre bout, ils vont se réunir à l'autre bout pour de nouveau reformer un nouveau tendon qui ira voir un autre os, etc. etc.
Comment ça s'organise ces... Donc ça fait des gradients cellulaires qui ont différentes qualités et qui sont toutes issues du même, du même type cellulaire, qui sont les fibroblastes, c'est ça ?
Pas dans le muscle. Le muscle ne fait pas partie des tissus conjonctifs, entre guillemets, et donc lui, il vient du myocyte, il vient du myofibroblaste, enfin, c'est une cellule particulière, alors que les autres tissus conjonctifs, dont tendons, ligaments, cartilages, os, tissus nerveux, un peu de tissu vasculaire, tout ça vient par contre effectivement de la cellule progénitrice qui est le fibroblaste.
Et même la structure, l'architecture faciale du muscle.
Non, ça c'est tissu conjonctif, ouais.
Ok.
Le rouge, en fait, il faut différencier le rouge du blanc, quoi.
Tout ce qui
est blanc vient globalement du fibroblaste.
C'était vraiment exceptionnel, hein. Si tu peux écouter cet épisode avec Dr Gamerto, c'est celui qui a filmé pour la première fois des fascias vivants. Uh-huh. Donc, c'était vraiment un hymne au tissu conjonctif, aux fascias, au fait qu'on soit en vie et en mouvement, tu vois. Magnifique.
Comment est-ce que tu traduirais la contrainte mécanique qui va orienter le type de cellule qui va être créée à partir du fibroblaste? On va avoir soit du ténocyte, soit du tissu cartilagineux. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec Rudy Koya, qui était top d'ailleurs, où t'expliquais comment se formaient les calcifications tendineuses. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe au niveau cellulaire?
En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pendant longtemps, on a considéré que le noyau de la cellule, c'était le cerveau de la cellule. Et que du coup, ça dirigeait l'évolution de la cellule, est-ce qu'elle allait devenir, est-ce qu'elle allait produire. Alors qu'en fait, la cellule n'a pas de cerveau. D'accord, le noyau, c'est juste une réserve d'ADN. Et à partir de cette réserve d'ADN, ça va venir produire certaines protéines, certains composants, selon ce qui va être nécessaire pour la survie de l'organisme. Parce qu'en fait, c'est ça qui va dicter tout ce qui va se passer dans notre corps. C'est comment s'adapter au mieux à l'environnement pour survivre. Et donc, en fonction des contraintes que le tissu va supporter, et donc du coup que la cellule va devoir affronter, eh bien elle va évoluer dans le tissu le plus à même de supporter la contrainte. Typiquement, si on a des contraintes de compression, on va plutôt s'orienter vers des tissus cartilagineux. C'est pour ça qu'on a des ménisques, typiquement. Dans les zones où il y a le plus de compression, donc entre les vertèbres et entre le fémur et le tibia, on va avoir du tissu très cartilagineux, très fibrocartilagineux, parce que c'est ce qui résiste le mieux à la compression. Si maintenant les contraintes vont être des chocs, des impacts, on va avoir une évolution vers le tissu osseux. Raison pour laquelle il y a des études qui ont été faites chez des enfants, à une époque où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait en science, depuis ça a évolué, mais s'il n'y a pas d'impact chez des enfants en pleine croissance, ils naissent sans ménisque. Enfin, ils naissent, ils évoluent, ils grandissent sans ménisque. De la même façon, il n'y a pas d'os sésamoïde. Donc, c'est des os sésamoïdes, c'est des os qui sont recouverts et qui sont encalcinés dans des tendons. En fait, ils apparaissent pas, ces os-là, ils se développent pas. Donc, ça montre bien que selon les contraintes qui sont appliquées et selon ce dont l'organisme a à faire face, il va évoluer vers une branche ou vers une autre pour s'y adapter le mieux possible. Et si on a besoin de résister à la traction, à quelque chose qui tire, eh ben là, on a besoin de tissu tendineux. Donc, du coup, la cellule va évoluer vers le ténocyte, vers sa forme tendineuse. Donc, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que j'applique sur mon corps? De quoi il a besoin pour s'y adapter au mieux et survivre? Et en fonction de ça, bah, il évolue vers du cartilage, vers du tendon, vers de l'os, vers des choses, vers du ligament. Si c'est très raide, ça a besoin de limiter le mouvement. Donc, ça va évoluer comme ça. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que, par exemple, après une ligamentoplastie, Ça, c'est assez fascinant, la ligamentoplastie. Donc, après une rupture du LCA, on prélève un bout de tendon, un bout de tissu conjonctif. Donc, ça, en fonction de la technique, on va prendre tendon rotulien, tendon de disque jambier ou la bandelette, quelque part, quoi. On le met à la place d'un ligament. Et en fait, on se rend compte que 3-4 mois plus tard, bah, quand on observe au microscope, c'est devenu un ligament quand même. Enfin, on retrouve les cellules et les composants d'un ligament. Donc, ça montre bien que ce sont des tissus qui évoluent. Et comme on l'a mis à la place d'un ligament, il a eu des contraintes de ligament. Et donc, il est devenu ligament. Et ça, c'est assez fascinant, je trouve. Ça veut dire qu'on a réellement un impact sur le devenir de nos cellules et donc de notre corps, quoi.
Et là, on va parler du tendon à 1000%. En fait, la place de l'enfant et des stimulations de l'enfant dans sa croissance et dans tous les âges de l'enfance, c'est super important pour avoir un héritage pour l'avenir, en fait.
C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'en fait, on a trois problèmes avec le tendon. Le premier, c'est qu'il y a peu de cellules. Il y a une densité cellulaire qui est faible. Très peu de cellules dans le tendon, par rapport à un muscle, par exemple. Il y a peu de vascularisation, c'est très peu vascularisé. Et le renouvellement, il est assez lent. Et en fait, on s'est rendu compte que le stock de cellules du tendon va être formé notamment jusqu'à nos 18-20 ans. Et après, il y en a qui seront produites, etc. Mais c'est très, très, très ralenti. Et donc, du coup, en fait, la qualité de nos tendons est ce qu'on appelle, nous, génétique. En fait, n'est pas tellement génétique, c'est plus qu'est-ce que tu auras fait pendant tes 0 à 18 ans. Est-ce que tu auras sollicité tes tendons? Est-ce que tu auras couru? Est-ce que tu auras sauté? Ou est-ce que tu seras resté inactif? Et vu la tendance, je pense qu'on aura des tendons de moins en moins performants. C'est à ce moment-là que tu vas déterminer ton pool de cellules qui te servira ensuite tout le reste de ta vie, quoi.
Tu crées un capital ou une capacité tendineuse pendant cette ouais, période clairement. De croissance.
Comment t'es arrivé au tendon? C'est quoi ton histoire avec le tendon?
Des échecs thérapeutiques. En fait, j'ai pas de beau. Là, bah, j'en discutais avec Rudy Koya là quand je voulais parler de la formation que j'avais sortie sur le tendon, sur tendon révolution là. Il me disait ouais, il faudrait que tu fasses un peu un truc qui vend, etc. Et il me dit il faut que tu parles de blessures que tu as eues, de tendinopathie et tout, ça se fait vachement bien. Et le problème, c'est que moi, j'ai jamais été blessé. Je me suis jamais blessé. Je fais du sport depuis maintenant 20 ans et j'ai jamais été blessé. Donc du coup, ça marchait pas, quoi. Mais par contre, en tant que kiné, en tant que préparateur physique, j'ai rencontré des personnes qui étaient blessées, qui avaient des pathologies tendineuses ou du tissu conjonctif de manière globale. Et je me suis heurté à des échecs thérapeutiques parce que je trouve qu'on a tous, en tant que physio ou kiné, une vision globale de ce qu'on doit faire sur le tendon, sur les tendinopathies, etc. Mais qu'en même temps, on ne sait pas trop non plus, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu laissées au hasard. Je vais faire un peu d'isométrie. J'ai entendu que l'excentrique, c'était bien, donc je vais faire un peu d'excentrique. Après, on m'a parlé vite fait de Jill Cook, du protocole HSR, etc. Donc, je vais mettre un peu de lent et de lourd. Je sais que la pliométrie, c'est bien, donc je vais en faire un peu. On mélange tout ça. Et on espère que ça va guérir la personne et qu'elle va pouvoir retourner à son niveau de performance. Et en fait, on se rend compte que quand le hasard prend la directive de la rééducation, bah en gros, t'as une chance sur deux, quoi. Et moi, une chance sur deux, ça me suffisait pas. Donc quand j'ai voulu faire mieux, j'ai cherché. Dans la francophonie, j'ai pas trouvé grand chose. Donc je suis allé chercher dans la littérature scientifique. Parce que du coup, comme j'avais fait mon master recherche, j'avais à peu près comment chercher. Et dans les formations anglophones. Et après, une fois que tu mets la tête dedans, tu creuses, hein. Voilà.
Bon, ben moi, j'ai été tout le temps blessé. Et je pense que ça m'a servi aussi, tu vois, pour comprendre parfois les patients et les athlètes. Et j'avais jamais fait de pathologie du tendon. Dernièrement, c'est ce que j'ai eu, tu vois, une tendinopathie d'Achille. Ça m'a surpris, mais je me suis rendu fou. Et on a eu Blaise Dubois, tu vois, qui est de la clinique du coureur, qui parle de charge d'entraînement. Je sais pas si c'est le moment pour en parler, mais en tout cas, c'est, je pense, le gros axe sur les tendons, c'est vraiment de gérer la charge d'entraînement, voir comment ça s'est développé, cette pathologie, et de venir changer l'intensité, le volume, peu importe, mais.
Ah, bah, de toute façon, tu parles de tendon, tu es obligé de parler de charge, hein.
Je pense qu'on y reviendra peut-être juste après sur la charge.
Ouais, désolé, c'est l'instinct là. Oui. Voilà, j'avais envie c'est de l'athlète. Me confier. J'avais envie c'est de me confier. Là.
Ouais. C'est le virtuose. C'était juste pour qu'on finisse, tu sais, sur les terminologies. et un peu les structures. Pourquoi est-ce que le tendon met plus de temps à récupérer qu'une cellule musculaire, qu'un muscle? À quoi sont dus ces délais de récupération qui sont différents avec entre une lésion musculaire, une lésion tendineuse et une lésion cartilagineuse?
Bah en fait, c'est les trois manques dont on parlait juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, un tendon, ça cicatrise lentement parce qu'il y a peu de cellules. Donc, comme ce sont les cellules qui sécrètent les éléments nécessaires à la cicatrisation, comme il y en a moins, bah, ça sécrète moins. Et la deuxième chose, c'est que c'est très peu vascularisé. Donc, c'est-à-dire que l'apport d'oxygène et de nutriments nécessaires à la cicatrisation est ralenti. Et en plus, du coup, bah, l'évacuation des déchets à la suite de la lésion est également ralentie par rapport à un muscle qui est extrêmement vascularisé. Et du coup, on a un faible renouvellement parce qu'en fait, le tendon dégrade et produit en même temps. C'est un équilibre fragile et c'est quand cet équilibre-là est rompu qu'on se dirige vers la pathologie. Et en fait, le renouvellement qui se met en place, le temps de produire du collagène, que ce collagène, ensuite, une fois que ce soit produit, se mette en place, soit aligné, récupère les propriétés mécaniques dont il a besoin, sa raideur, etc., ça prend du temps, contrairement à une fibre musculaire qui, en fait, est produite très rapidement, que les protéines musculaires sont produites très rapidement et ensuite, il y a, entre guillemets, juste besoin de l'entraîner.
Et comment t'expliques le fait qu'il y ait si peu de vascularisation? Le corps est quand même bien fait. Il y a une raison à tout ça.
Bah, le corps est extrêmement bien fait et l'absence de vascularisation est nécessaire puisqu'en fait, pour que le tendon, comme je l'ai dit au départ, soit capable d'emmagasiner l'énergie et la force, la tension produite par le muscle et de la transférer, ça a besoin d'être une structure compacte, dense, ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour l'infiltration des vaisseaux sanguins. Et en fait, les vaisseaux restent donc à la périphérie du tendon, donc au niveau du paraténon, donc c'est l'enveloppe superficielle du tendon. Là, on retrouve tous les nerfs et les vaisseaux sanguins. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a une pathologie, c'est que lors de la pathologie, la structure compacte qu'est le tendon va se dégrader. On va avoir une dégradation de ce qu'on appelle la matrice, donc c'est l'intérieur du tendon dans lequel on va retrouver le collagène, de l'eau et des protéines. Cette matrice-là, en fait, va se dégrader, va former comme du gruyère, quoi, va devenir beaucoup plus friable. Et du coup, les vaisseaux sanguins qui sont à la périphérie vont avoir la possibilité de s'infiltrer dans le tendon pour arriver jusqu'au lieu de lésion. Et du coup, faire ce que je disais, apporter les nutriments, l'oxygène, évacuer les déchets. Donc en fait, c'est assez bien fait dans le sens où c'est très compact à la base parce que ça a besoin de cette raideur, de cette rigidité pour emmagasiner et transférer les forces. Et en cas de lésion, eh ben cet élément compact va se dégrader pour permettre l'infiltration des vaisseaux sanguins qui vont amener ensuite les éléments nécessaires à la cicatrisation. Le problème, c'est que ces vaisseaux sanguins, eh ben, tant qu'ils sont là, la structure ne peut pas se refermer, redevenir rigide et compacte, puisque du coup maintenant il y a des vaisseaux sanguins. Et en plus, ils sont accompagnés de nerfs sensitifs, parce que les nerfs aussi restent à la périphérie, tout rentre. Et ces nerfs sensitifs sont responsables notamment d'une partie de la douleur.
Et là, tu disais la fonction, c'est principalement de la transmission de force. Il y a un paramètre de raideur. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, parce que parfois la raideur peut être un peu péjorative, et là, c'est pas exactement la même notion. Mmh.
En fait, il y a une raideur articulaire qui va limiter le mouvement. Celle-là, c'est celle généralement contre laquelle on essaye de lutter. C'est celle qui va réduire la mobilité, la capacité à bouger dans l'espace. Et ensuite, il y a la raideur tendineuse. La raideur tendineuse, elle est définie par, pour ceux qui aiment la mécanique, par ce qu'on appelle le module de Young. Donc, c'est le niveau de force nécessaire pour déformer un matériel, peu importe quel matériel c'est. Et donc, plus on a besoin d'un niveau de force élevé pour déformer le matériel, plus on va considérer que ce matériel est raide. C'est le cas du tendon. Moins il y a besoin de force pour le déformer, plus on va parler de compliance. Et c'est là en fait où on voit la nuance entre raideur articulaire et raideur tendineuse. C'est que l'inverse, c'est souple ou compliant. Ce qui n'est pas la même chose. Un tendon, c'est jamais souple. En fait, ça n'existe pas un tendon souple. C'est soit un tendon qui se déforme facilement, soit un tendon qui a besoin de beaucoup de force pour se déformer. Donc ça donne soit un tendon raide, besoin de beaucoup de force pour le déformer, soit un tendon compliant, pas besoin de beaucoup de force pour le déformer.
Et ça, en fait, c'est parce qu'il y a différentes variations entre les tendons du corps. Je suppose qu'en fonction de la fonction, si on prend un tendon d'Achille ou un tendon du suzépineux, par exemple, ça n'a pas du tout la même fonction, donc pas du tout les mêmes caractéristiques.
Complètement. Et d'ailleurs, la composition est différente. C'est-à-dire que la raideur va être définie par la quantité de collagène de type 1 et le nombre de cross-links, de ponts qu'on va retrouver entre les fibres de collagène. Puisque ces fibres de collagène, quand le muscle se contracte, le tendon s'étire. Donc ces fibres de collagène sont censées coulisser l'une par rapport à l'autre pour s'étirer. Et donc plus il y a de ponts entre les fibres de collagène, moins elles peuvent coulisser l'une par rapport à l'autre, donc moins elles se déforment, donc plus le tendon est raide. Donc par l'entraînement et effectivement par sa localisation, mais sa localisation en fait, elle influence les contraintes qu'il va recevoir. C'est-à-dire que si je coupe le tendon d'Achille et je le place au niveau de mon épaule, il va finir par avoir la même composition que mon susépineux. À l'inverse, si je prends mon tendon du susépineux, je le place au niveau de mon tendon d'Achille et il vit comme un tendon d'Achille, il finira par devenir beaucoup plus raide qu'un tendon de susépineux à la base. Donc c'est encore une fois, qu'est-ce que va subir le tissu, quelles contraintes il va subir et comment l'organisme va pouvoir s'y adapter pour survivre.
Le problème, c'est quand même là, je vois l'exemple que tu as donné, hein, la problématique, c'est qu'une adaptation de tendon, ça prend énormément de temps et comme tu disais, au niveau du capital, un tendon de susépineux, qui est un muscle de l'épaule, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, le calibre et la résistance à l'étirement n'a absolument rien à voir avec un tendon d'Achille. Et même on pourrait dire qu'il ne pourra jamais s'adapter à des contraintes de course à pied parce que
non.
On ne peut pas révolutionner le truc.
Non, mais c'était pour donner l'exemple du fait qu'effectivement, c'est parce que les contraintes de l'épaule sont celles que subissent l'épaule. Que le tendon du susépineux est tel qu'il est, quoi. C'est-à-dire différent, effectivement, du tendon d'Achille.
Quels sont les facteurs qui vont influencer la qualité du tendon d'un individu entre un homme et une femme, entre entre deux hommes qu'est-ce qui, selon toi, est les 3 à 5 facteurs qui sont prépondérants là-dedans?
La génétique. On peut pas, entre un homme et une femme aura, quand je dis toujours, il faut pas prendre le toujours avec toutes ses lettres. Il y a toujours des exceptions. Mais dans la globalité, une femme aura toujours des tendons moins raides qu'un homme, à la base. Donc, c'est quand même plus sujet aux tendinopathies, à la base. Ensuite, l'entraînement. Donc, quel type d'entraînement, quel type de contraintes je vais mettre sur mon tendon, parce que j'ai quand même une grosse faculté à le faire évoluer et à l'entraîner, à le rendre performant si je fais ce qu'il faut. Donc, l'entraînement, ça compte. Et bon, je dirais l'hygiène de vie, parce qu'en fait, on se rend de plus en plus compte que l'hygiène de vie, de l'alimentation, je parle même pas de l'alcool et de la cigarette, hein, parce que ça, normalement, tout le monde sait que c'est... Voilà, ceux qui en 2025 ne comprennent pas que la cigarette n'est pas qu'un problème de poumon, mais un problème d'ensemble de l'organisme, on a un vrai souci. Mais l'alimentation semble également favoriser l'apparition des pathologies tendineuses, notamment l'alimentation sucrée, tout ce qui est diabète, etc. Les diabétiques, ils ont des tendons pourris, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Parce que justement, en fait, je disais, pour améliorer la qualité du tendon, notamment sa raideur, il y a les crosslinks entre les fibres de collagène. Et ben, ces crosslinks, il y en a de deux types. Il y a les types qu'on appelle enzymatiques qui vont être formés par la contrainte, donc on va dire les bons. Et après, il y a les crosslinks qui sont formés par une réaction chimique qu'on appelle la glycation, c'est-à-dire qu'en gros, ça va être la formation d'une protéine avec un sucre. Et en fait, ils vont être formés avec un sucre, donc ils vont jouer leur rôle d'enraidissement du tendon. C'est pour ça que les personnes âgées ou diabétiques ont des tendons raides, au sens théorique du terme. Mais par contre, ils vont venir altérer tout le fonctionnement du tendon, et notamment son renouvellement, sa physiologie, son remodelage, etc. Donc il est raide, mais il est extrêmement fragile. Et c'est le problème du sucre pour le tendon.
Comment ça fonctionne, ça? Parce qu'on a parlé de glycation dans nos artères. Ouais. Donc ça, j'arrive bien à visualiser. Si on a un problème de glycémie, on va être exposé à plus de glycation. Mais comment ça se passe au niveau du tendon?
En fait, c'est parce que quand il y a un excès de sucre, notamment chez les personnes diabétiques ou résistantes à l'insuline, ce glucose va être utilisé pour enraidir le tendon. C'est une des conséquences du diabète. Et donc du coup, on a un remplacement entre guillemets des crosslinks enzymatiques de qualité, on va dire, par des crosslinks de glycation, donc qu'on appelle AGEs. Dans la recherche, c'est AGE. Donc, c'est des produits terminaux de glycation. Ça se forme, entre guillemets, naturellement quand il y a une résistance à l'insuline et un excès de glucose libre sanguin.
Rien à voir avec l'altération de la microvascularisation terminale chez les diabétiques.
Alors ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà qu'un tendon s'est pas bien vascularisé, si en plus on a une pathologie qui vient réduire la vascularisation, on va favoriser forcément les problèmes tendineux.
Je te pose une question. Est-ce que là, on est en 2025, est-ce qu'en 2045, on aura la même explication de la vascularisation du tendon? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est sûr de cette histoire?
Laquelle?
De la vasculation du tendon, comme quoi c'est, tu vois, je me pose la question si vraiment la complexité du vivant est-ce qu'on a vraiment la notion complète de l'histoire, tu vois?
Moi, ouais, je pense que sur la vascularisation, on n'est pas mauvais, ouais. Parce que si tu veux, à moins qu'on arrive à trouver une technologie qui permette de voir les choses encore plus petits et qu'on se rende compte que vraiment à l'intérieur du tendon, il y a des capillaires sanguins microscopiques qui irriguent. Bon, c'est pas impossible, mais on est quand même pas mauvais là en termes de technologie. À l'heure actuelle, les vaisseaux sanguins sont réellement situés à la périphérie et peu nombreux, quoi. Et peu nombreux.
Là où je veux t'amener, c'est est-ce qu'il n'existerait pas un autre moyen de cicatrisation que la vascularisation? Tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen liquidien, lymphatique autour dans la gaine du tendon qui serait un accès aussi aux nutriments, à l'ensemble des clés de la cicatrisation tendineuse?
Ouais, alors ça pour le coup, d'accord. Alors j'avais pas bien compris. Oui, si, parce que là, les recherches avancent sur le drainage lymphatique. Et sur le rôle du réseau lymphatique dans les pathologies tendineuses, c'est encore ça débute, c'est pas encore bien, mais ça du coup forcément ça va évoluer, ça va apporter des réponses parce qu'en fait on se rend compte, et c'est quand même fou, hein, mais en 2025 avec toute la science et la recherche et on parle quand même des tendinopathies, donc c'est quand même une pathologie, une personne sur deux sera atteinte d'une pathologie, d'une tendinopathie dans sa vie. Donc c'est une pathologie qui est quand même très étudiée et chez les sportifs j'en parle même pas. Et ben on sait toujours pas comment ça se passe. C'est lunaire, hein. Mais en gros on a quand même des bonnes idées, hein. Mais en gros à l'heure actuelle on sait qu'il y a une triptyque entre un problème de surcharge ou de sous-charge. Ça c'est important à comprendre, hein. C'est pas qu'un problème de surcharge, hein. Des fois c'est un problème de sous-charge. Donc en gros un problème de charge, de contrainte. Un problème de vascularisation et un problème d'inflammation. Mais parfois, il y a les trois. Parfois, il n'y en a qu'un. Parfois, il y en a deux et pas la charge mécanique. Bref, les trois ensemble s'amusent et donnent la tendinopathie. Ce qui fait qu'à une époque, on pensait que c'était que l'inflammation, donc on parlait de tendinite. Ensuite, on pensait que c'était qu'une problème de charge et de dégradation, on a parlé de tendinose. Et comme aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on ne sait pas, on a dit tendinopathie, voilà, pathologie du tendon. Quoi. Mais ouais. Ça, par contre, ça va évoluer parce qu'on ne sait toujours pas, en vrai. Si tu demandes à quelqu'un de t'expliquer le processus d'apparition d'une tendinopathie et qu'il te répond avec une réponse nette, c'est qu'il ne sait pas tout. Quoi.
C'est qu'il ne sait pas, ouais. Mais ouais. Tu vois, là, on se posait la question en off avec Pierre. Quelle est, toi, ta vision de la thérapie manuelle? Moi, mon expérience, c'est dernièrement, j'ai eu beaucoup de tendons au cabinet, donc tu tombes à pic pour ce podcast, je suis très content. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un des game changers, c'était vraiment de venir avec mes mains autour du tendon, tu vois. Vraiment de drainer ce tendon. Et il y avait vraiment un avant-après, tu vois, sur le ressenti du patient. Je sais pas comment tu te places, toi.
Ouais, moi, je sais que c'est quelque chose que, alors là, j'ai de plus en plus de personnes à distance, donc c'est de plus en plus difficile, mais, je maîtrise pas parfaitement ces techniques, faut être objectif, mais je les utilise parce qu'effectivement, de manière empirique, donc juste, je le fais, je regarde ce qui se passe, il y a des effets positifs. La science est en train, mais la science est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en gros, la science, elle finit par démontrer ce qu'on a trouvé sur le terrain et à l'expliquer, mais 10 ans après, quoi. Donc si on attend forcément la donnée de la science pour faire les choses, bah t'as 10 ans de retard, quoi. Donc c'est un peu un problème. Et j'ai remarqué effectivement que cette technique-là a parfois, surtout en phase aiguë, Donc, quand le patient est très douloureux, des effets positifs. Donc, pourquoi, comment, on n'a pas encore la réponse exacte, mais pourquoi se priver d'un truc positif ?
Tu parles de quelle modalité exactement ? Tu parles de drainage lymphatique manuel ?
Ouais.
Tu parles pas du vieux MTP où on fracasse
alors ça,
le tendon ?
J'ai toujours pas compris comment ça a pu avoir. Je sais pas. Ça respecte aucune règle. Alors, pour revenir à la question de Vincent tout à l'heure, peut-être qu'en 2045.
C'est un peu profond pour ceux qui sont pas.
Oui, mais c'est le principe de ce massage. J'ai l'impression qu'il respecte rien, quoi.
C'est, si tu veux, c'est. Le seul intérêt qu'il peut y avoir d'un MTP, et je sais même pas si ça fonctionnerait, en gros, ce serait d'annihiler la douleur en créant de la douleur. C'est, et derrière, du coup, de peut-être pouvoir faire une rééducation. Mais en fait, honnêtement, hein, alors, pourtant, le tendon, je l'étudie, hein, ça fait 10 ans. Mais, je comprends toujours pas. Quels sont les justificatifs? Parce que le MTP, aujourd'hui, plus personne n'en fait quasiment. Enfin, sauf peut-être les anciens kinés. Mais à un moment donné, tout le monde y passait, quoi. Tendon rotulien, ça frottait fort. Hein. Surtout qu'un tendon rotulien, ça se développe notamment parce qu'il est trop comprimé. Il y a trop de compression du tendon rotulien sur la protubérance, sur la TTA, quoi. Et toi, ta solution, c'est de venir appuyer dessus, quoi. C'est vrai que ça, j'ai pas.
Est-ce que c'est pas la plus ancienne des techniques de kiné, c'est de faire mal ailleurs pour faire une diversion, tu vois. Là, j'ai envie de rebondir. Qu'est-ce que tu penses des ondes de choc? Parce que les ondes de choc, est-ce que c'est pas le MTP de, tu vois, de 2025?
Alors, les ondes de choc, la science a montré un intérêt. Enfin, deux intérêts. Le premier intérêt, c'est sur les calcifications. Mais, le problème, c'est qu'il y a à peu près 60% des calcifications qui sont asymptomatiques. Donc, c'est-à-dire que la calcification est là, mais elle n'est pas responsable de la douleur. Donc, quel intérêt d'aller l'enlever? Déjà, la première des questions. La deuxième chose, c'est quand la calcification commence à être douloureuse, généralement, c'est pendant sa phase de résorption. Donc, est-ce que l'utilisation des ondes de choc à ce moment-là est pertinente? Question encore. Mais il semblerait qu'effectivement, quand la calcification est la cause de la douleur et qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de résorption, donc elle gêne à la mécanique du tendon parce qu'elle épaissit le tendon et effectivement, bah, un bout de fibrocartilage n'a rien à faire au milieu du tendon, donc forcément c'est ok là, pourquoi pas. La deuxième possibilité, et encore, c'est un niveau de preuve qui est moyen, qui n'est pas encore élevé, mais on a
beaucoup de mais quand même. Hein.
Ah ouais, mais c'est la science. Et la deuxième chose, c'est sur les tendinopathies chroniques, où du coup, c'est ce que je parlais, on a cette hypervascularisation et cette hyperinnervation dans le tendon. Les ondes de choc pourraient venir arrêter l'hyperinnervation, détruire les nerfs. Sensitif. Voilà, fin de l'intérêt.
Moi, dans mon idée, qui est a priori erronée, si je t'entends, c'était que on venait créer des micro-lésions intra-tendineuses via l'onde de choc et pour stimuler une cicatrisation ou une néo-cicatrisation du tissu.
Ouais, mais alors c'est réellement ce qui se passe, mais c'est pas forcément une bonne chose en fait. C'est parce que en fait la pathologie tendineuse, elle vient, comme je disais tout à l'heure, d'un déséquilibre entre dégradation et production. Donc il y a eu une charge, ou en tout cas il y a une raison, encore une fois, des fois c'est pas toujours la charge, on se fait avoir, qui a entraîné la dégradation, qui a augmenté la dégradation à l'intérieur du tendon. Donc on dégrade les fibres de collagène, on dégrade les composants de la matrice, l'alignement des fibres et tout, ça devient un peu le bordel dans le tendon. L'inflammation qui se met en place pour essayer de réparer ça fait perdurer cette dégradation. Et toi derrière, tu viens et tu fais des micro-traumatismes. Dans l'idée, ça semble pas être l'idée du siècle. Parce que déjà que le tendon, il a du mal à se réparer. Que parce qu'il a été surchargé, il est en mode dégradation. Il dégrade tout ce qu'il y a. Il a du mal à surproduire. Et toi, tu viens, tu rajoutes un truc qui dégrade. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées, quoi.
En fait, la prise en charge, elle serait multifactorielle. Tu es en train de me dire, ouais. C'est pas forcément la remise en charge qui pourrait être la plus pertinente, en fait. J'ai qu'à lui demander qu'est-ce qu'il mange le matin et faire une prise de sang, quoi.
En fait, tu te rends compte que sur les tendinopathies, c'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait le croire. C'est pas, t'as une tendinopathie d'Achille et tu fais le protocole Stanish. C'est pas, en fait, ouais, effectivement, ça va dépendre de où on se situe dans la pathologie tendineuse. Parce que ça, c'est extrêmement sympa. Mais les gens qui viennent te voir, s'ils venaient te voir, parce que dès lors que la pathologie s'est déclenchée, on les réglerait quasiment toutes les tendinopathies. Mais le problème, c'est comme la tendinopathie, c'est un peu sournois, dans le sens où ça se développe, mais c'est tolérable, et puis c'est de moins en moins tolérable, et puis au bout d'un an, c'est plus du tout tolérable. Les gens, ils se pointent au cabinet, ils ont une tendinopathie depuis 6 mois, quoi. C'est hyper fréquent, ça. Quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, j'ai mal au tendon d'Achille depuis 6 mois, 1 an, ah, mais le problème, c'est qu'en 6 mois, 1 an, ton tendon, il s'est détruit, quoi.
Ou une épaule qui est douloureuse depuis.
Ou une épaule, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. En ce moment, je suis beaucoup dans l'aérox, donc j'ai beaucoup de tendinopathie d'Achille, c'est pour ça que ça revient fréquemment, mon exemple.
Et alors, tu vois, par exemple, on prend cet exemple, mettons une épaule qui est douloureuse depuis 6 mois. Il y a quand même des changements de qualité intrinsèque du tendon qui vont avoir lieu, qui ont mis 6 mois, enfin. Qui se produisent depuis 6 mois. Au niveau des délais, alors, ça, c'est la première question des patients.
Combien de temps? J'en ai pour combien de temps?
J'en ai pour combien de temps? Tu disais, par exemple, sur une tendinopathie, 3 semaines pour que la douleur, en tout cas, qu'il y ait une modulation de la douleur, que ça fait sens de se dire à peu près ça comme fourchette. Bon, on est tous différents, ça dépend du contexte. Et c'est sûr, ça dépend, c'est ce qu'on dit tous. Mais donc 3 semaines et puis 3 mois pour qu'il y ait de vrais changements physiologiques du tissu qui soient concrets, c'est ça?
Ouais, en gros, la douleur, on va avoir à peu près des résultats sous 10 jours, parce qu'en 10 jours, on a cette fameuse sécrétion de collagène. S'il y a rééducation correcte, hein, on est d'accord, on met ça sous couvert d'une rééducation cohérente. Il y a sécrétion de collagène, il y a réorganisation de la matrice, donc normalement, il y a arrêt de l'infiltration des vaisseaux sanguins et des nerfs sensitifs. Il y a l'inflammation, si elle est contrôlée, elle s'arrête au bout de 7 à 10 jours. Donc normalement, les facteurs douloureux doivent se stopper environ 10 jours, 2 semaines, quoi, à peu près. Maintenant, c'est les facteurs douloureux qui s'arrêtent. Et il y a vraiment trois choses à prendre en compte dans le tendon, dans les pathologies tendineuses, c'est la douleur, la fonction, donc quelles sont les capacités de mon tendon, qu'est-ce qu'il est capable de supporter, et ensuite la structure, de quoi il est composé, etc. Donc le problème avec les tendinopathies, c'est que les gens, ils ont très très mal, ils viennent voir le kiné, bon, souvent très très tard, mais ils finissent quand même par aller le voir. S'ils tombent sur un kiné performant, il leur fait faire ce qu'il faut. Au bout de 10 jours, ça va mieux. Merci, au revoir. Je repars faire mon activité et je repars en cacahuète, quoi. C'est ça qui est pas évident.
Parce que la
Ce qui
douleur
diffère.
n'est qu'une partie du problème, finalement.
Et c'est la plus petite, d'ailleurs. C'est la plus petite partie du problème. C'est celle qui dérange le plus le patient, j'entends, parce qu'il souffre. Mais c'est clairement le plus petit des problèmes sur le tendon, quoi.
Qu'est-ce qui diffère pour toi d'une rééducation, hein, la rééducation cohérente, il va falloir que tu nous en parles, mais quand tu as une lésion musculaire, une tendinopathie, quelle est pour toi les grosses différences de prise en charge?
Bah déjà, en fait, le problème de la lésion musculaire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on discutait au tout début, elle est très rarement que musculaire. Tu abîmes à la fois la fibre musculaire, mais aussi le tissu conjonctif intramusculaire. Donc,
Myoaponevrotique, on dit maintenant.
myoaponevrotique. C'est pour ça que dorénavant, on parle de lésion myoaponevrotique. Et donc, du coup, ça nécessite une rééducation qui, en fait, est souvent mal faite, parce qu'on rééduque souvent que le tissu rouge. Donc, hypertrophie musculaire, augmentation des niveaux de force. Chose basique. Et on oublie d'aller travailler sur le tissu conjonctif qui nécessite enfin, quand je dis étirement, c'est pas étirement passif, mais c'est allongement, capacité d'allongement du tissu, capacité de production de force en position d'allongement, capacité à résister à de la force pendant l'allongement et capacité à prendre de la force en situation de vitesse. Donc c'est pour ça que l'époque, j'exagère, mais où la lésion de l'ischio jambier était rééduquée avec des leg curls, bah, ça n'a jamais suffi, quoi. Parce que effectivement, tu vas peut-être rééduquer le tissu rouge, tu vas remettre du muscle, tu vas remettre de la viande, tu vas remettre de la force, mais tu n'auras pas rééduqué le tissu blanc. Donc à partir du moment où ton tissu rouge qui a été réentraîné va reproduire de la force, ton tissu blanc qui n'a pas été entraîné ne sera, sera incapable de l'emmagasiner et va recéder à nouveau, quoi. D'où les récidives.
T'as pas entraîné le système à résister à la tension mécanique dans la course extrême, enfin dans l'amplitude extrême d'étirement du
Exactement,
système.
ouais.
Et moi, ma chronologie, tu vois, de remise en charge, c'est quasi la même, hein. On fait de
Ah oui?
l'isométrie, on fait du lourd lent chargé, on va faire chercher l'excentrique, on va chercher la plio ou la fonction. Mais que d'avoir une lésion musculaire ou un tendon, franchement, moi, je pars sur la même histoire à chaque fois.
Ouais, alors c'est globalement la même histoire parce que dans les deux cas, tu touches le tissu conjonctif. La seule différence, c'est qu'en fonction du muscle qui va être touché, il n'aura pas forcément besoin de raideur. C'est la seule il n'a pas forcément besoin de plio. Tu vois,
Oui.
c'est juste c'est la différence. Tout comme au niveau du tendon, comme on discutait tout à l'heure avec Pierre, le supraépineux n'a pas forcément besoin des mêmes capacités qu'un tendon d'Achille. Donc tu vas pas. Mais effectivement, à partir du moment où tu as un tissu blanc. En fait, ça, c'est, mais en plus, je sais plus les années, mais ça doit bien être les années 50 ou 60. Hein. Mais on a le modèle de Hills, donc HI2LS, où il expliquait la composante contractile et la composante élastique. Donc la composante élastique qui reste le tissu blanc, la composante contractile qui est le tissu rouge. On a bien une course moyenne interne où on va avoir le tissu rouge qui va être très contracté, qui va être quasiment le plus premier producteur de force. Et dès qu'on va aller vers la course externe, on a le tissu blanc qui va prendre le relais, qui va avoir cette composante élastique et produire la force. Donc en fait, si tu veux rééduquer correctement un tissu blanc, un tissu conjonctif, il va falloir aller à un moment donné vers l'allongement, quoi. Sinon, tu rééduqueras que ton tissu rouge. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des gens qui ont des lésions musculaires, en fonction de la qualité de la rééducation, quand tu les prends après, ils ont perdu leur amplitude de mouvement. Ils sont plus capables d'aller en allongement.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas rééduqué ce tissu blanc, donc du coup, le cerveau, il est pas fou, hein, il t'autorise pas à y aller, quoi.
Donc globalement, on suit cette histoire de contraction musculaire qui va plus ou moins charger les structures. On va travailler dans l'ensemble des amplitudes. On se dirige vers la fonction et on est dans le vrai.
En fait, la rééducation, théoriquement, c'est simple à chaque fois. C'est juste qu'en pratique, on se prend des murs de temps en temps, mais théoriquement, c'est ça, c'est récupérer les amplitudes, entraîner le tissu en course externe, donc en position d'allongement, en respectant le seuil de douleur, développer la masse musculaire et la force, et développer ensuite, si besoin, la raideur du tissu conjonctif. Théoriquement, facile.
Mais
Oui.
ça, ce dont tu parlais, c'est quand même la bonne fin de l'histoire. La vraie problématique, c'est ces premières semaines où le patient est très douloureux, il a sa douleur d'épaule, il a sa douleur au genou qui ne le lâche pas, et de trouver l'exercice ou les modalités d'exercice qui lui permettent de remettre en charge et de retravailler et que ce soit vertueux. Est-ce que tu peux nous parler de l'intérêt de l'isométrique, puisque c'est ça le premier, la porte
C'est la porte
d'entrée vers de
d'entrée.
la. Ouais, c'est ça. On peut pas. C'est pas l'excentrique. C'est pas cette niche qui est très connue, très démocratisée. C'est de l'isométrique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'isométrique?
Si tu peux le redéfinir aussi pour l'ensemble des auditeurs.
Ouais. Alors en fait, l'isométrie, c'est une contraction du muscle, hein, parce que alors ça, c'est important de le préciser. Le tissu conjonctif, le tendon ne se contracte pas. Hein, c'est pas contractible, contractable. Je sais pas, c'est pas un tissu contractile, c'est un tissu qui est capable d'évoluer face à la contrainte. C'est deux choses différentes. Donc on a besoin pour avoir un tendon performant, faut un muscle fort. Ça c'est clair et net. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les tendinopathies sont aussi plus fréquentes chez les femmes. Tout à l'heure, je disais elles avaient des tendons moins raides, mais c'est aussi parce qu'elles ont des muscles moins forts, une densité musculaire moins élevée, ce qui fait que du coup, elles ont des tendons moins résistants, moins capables de résister, avec moins de capacité. Donc déjà, il faut bien voir l'ensemble comme un complexe muscle-tendon. C'est pas juste le tendon, juste le muscle. Donc l'isométrie, c'est contraction du muscle sans mouvement articulaire. Donc on est dans une position statique, ça bouge pas, mais on contracte le muscle. Typiquement, c'est la chaise, c'est le gainage, c'est tenir par exemple les bras à 90 degrés d'abduction, c'est des choses comme ça. C'est tenir une position. Donc ça, c'est l'isométrie. Et en fait, on s'est rendu compte que dans l'isométrie, il y en a de deux types. On va avoir l'isométrie qui on appelle, alors moi j'aime bien utiliser le langage scientifique, qu'on appelle l'isométrie PIMA, PIMA, pour pushing ou pulling isometric muscle action, donc pousser ou tirer avec une action isométrique. Dans le langage un peu marketing américain, ça se dit overcoming aujourd'hui. Donc en gros là, c'est nous qui allons produire une force contre une charge qu'on ne peut pas déplacer. Typiquement, je me mets à pousser un mur. Je produis la force de pousser rien ne bouge parce que je suis pas capable de déplacer le mur, mais je produis de la force. Donc ça, c'est une isométrie PIMA ou overcoming. La deuxième, c'est l'isométrie IMA, H-I-M-A, pour Holding Isometric Muscle Action. Donc là, c'est, on cherche à retenir la charge et on évite le mouvement. Cette fois, on résiste à la contrainte. C'est, par exemple, bah, je me mets en position de 90 degrés en pompe et je fais en sorte de pas bouger de cette position-là. Je résiste au fait que la gravité veuille me faire descendre. J'exerce une force contre la gravité. Il n'y a pas de mouvement. Je suis dans une isométrie où je résiste. Je suis dans une isométrie IMA. Et en fait, on s'est rendu compte que ces deux types d'isométrie vont avoir des conséquences différentes. Ouais.
Tu sous-entends que là, entre les deux exemples, que dans un exemple, quand je pousse le mur, la charge, en fonction de moi, l'intensité que je mets dans l'exercice, va varier, alors que sur la pompe, la charge ne varie pas. C'est ça la différence ?
Ouais, la différence, elle est…
La résistance qui…
Ouais, c'est, en fait, c'est que c'est ça. En fait, l'isométrie PIMA, donc là, celle où tu produis, donc tu pousses contre le mur, elle a l'avantage que c'est toi qui génères de la force. Donc, tu peux la moduler. Si je te demande de pousser contre le mur à 20%, tu peux pousser à 20, à 40, à 60, à 80 ou à 100%. Quand je te mets face à une isométrie IMA, eh ben en fait, tu vas devoir résister à la contrainte qui est imposée par l'extérieur. Et donc, c'est beaucoup plus dur à moduler. Donc, c'est généralement pas la première isométrie qu'on met en place. Elle est très intéressante, hein, mais c'est pas
juste
la première.
Pour te corriger, parfois, on peut aussi pousser le mur à 1000%. Mais c'est juste…
juste pour le placer.
C'est pour moi, voilà.
Mais voilà, donc en fait, tu peux même monter à 1000%, mais c'est toi qui gère l'intensité. Donc en fait, la porte d'entrée de l'isométrie, pour revenir à la question initiale, tu pourrais commencer par l'excentrique. Mais ça va dépendre en fait de qu'est-ce que le patient est capable de supporter à l'instant T où il vient de voir. L'isométrie a l'avantage où tu contrôles tout. Parce que le tissu conjonctif et donc le tendon, comme j'ai dit tout à l'heure, il répond surtout à deux contraintes. L'allongement, l'étirement et la vitesse. Donc la vitesse, c'est difficilement contrôlable. Si je te demande d'aller vite, moyennement vite ou doucement, c'est très variable selon ta perception de la vitesse. D'accord ? Donc ça, c'est difficile à contrôler. Et alors que l'allongement, on peut grâce à l'isométrie. Parce qu'avec l'isométrie, je contrôle l'angle sur lequel je vais travailler. C'est moi qui le choisis et il bougera pas si je fais bien l'isométrie. L'intensité à laquelle je vais travailler, parce que là encore, c'est moi qui choisis. Et la durée pendant laquelle je vais travailler. Donc, je contrôle absolument tout et je peux réguler ces curseurs pour ne pas générer de douleur. Cet angle me fait mal, hop, je raccourcis, je travaille sur un angle non douloureux. Je suis à 60%, hop, ça commence à générer de la douleur, hop, je diminue, je suis à 40% d'intensité. Au bout d'une minute de travail, j'ai des douleurs, ok, je travaille sur 45 secondes. Donc, je suis capable de contrôler tous ces paramètres clés pour rester sous un seuil de douleur de 3, 4 sur 10 maximum pendant la rééducation. Et c'est pour ça que l'isométrie, en fait, est intéressante parce qu'elle permet de tout contrôler, donc d'être dans un environnement sécuritaire. Donc, quand le patient a mal, c'est quand même positif. Et en plus, ça permet d'avoir des adaptations puisque je peux avoir des hautes intensités, des longues durées. Et en plus, la science a montré qu'on a des adaptations qui sont faites à plus ou moins 15 degrés au-dessus et en dessous de l'angle travaillé. Donc, c'est tout bénef.
Oui, donc il y a 30 degrés d'adaptation. Ouais. Typiquement, sur une chaise qu'on fait à angle droit, on va renforcer dans cette angulation-là sur 30 degrés. Donc l'idéal, ce serait de faire de la chaise sur deux angles différents et on aurait déjà quelque chose de…
Souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais la chaise à peu près à 90 degrés et tu fais une chaise un peu plus haute pour finaliser la course, quoi.
Magnifique.
Petit coup de gueule, j'ai pas l'habitude, mais la dernière fois, là, on m'a envoyé un médecin du sport sur Instagram qui démontait la chaise. Et ben voilà, je le démonte à ma place. Moi, j'adore la chaise. Je fais du statique en chaise, en fente, de partout. Enfin voilà. Parfois sur Instagram, il faut aussi prendre du recul, écouter 1000%, prenez le temps de comprendre un peu l'ensemble du sujet. Parce que sur Insta, ouais, on voit des âneries. Waouh.
Ah, la chaise, moi, ça fait partie de. Je pense que je l'ai à chaque séance pour les tendinopathies, que ce soit d'Achille ou rotulienne. J'ai un réel là qui est dans les tuyaux, je sais pas quand est-ce. Mais la chaise, pour moi, c'est l'un des exercices les plus sous-cotés du monde. Je veux dire, tu peux faire tellement de choses avec, c'est tellement variable. Tu peux varier les angles, tu peux varier pointe de pied, pas pointe de pied. Tu surélèves le talon, t'engages le mollet ou pas. Tu changes l'angle, tu mets plus haut, plus bas. Tu charges pas, tu mets des stabilisations. C'est hyper. Enfin, j'ai la chaise, c'est. Je sais pas,
Ouais, mais
je connais pas les arguments du médecin
c'est la
qui a
surpression
prescrit.
rotulienne, c'est juste une adaptation à 90 degrés. Enfin, c'était horrible. Mais,
2025, avançons,
ouais,
avançons, s'il vous
exactement, exactement.
plaît.
J'adore la chaise. Bon, voilà, c'était c'est à la
Le
fois
coup
un coup de
de
gueule et un coup de cœur pour la chaise. Voilà.
gueule.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code Podcast 10, lien et code en description. Retour au podcast.
Et au niveau des modalités, qu'est-ce que tu recommandes à un patient qui nous écoute, qui est perdu? Forcément, premier truc là, tous ceux qui nous écoutent, qui cherchent des solutions, allez voir un bon
Consulter.
thérapeute, faites-vous bilanter, allez voir un kiné, allez voir votre médecin du sport, et allez voir votre kiné de confiance qui vous oriente, parce que ça dépend aussi du bilan, hein, parce que votre tendinite du coude, à tout moment, ça vient des cervicales. Donc, il faut que quelqu'un vous examine, et pour orienter tout ça, parce que les protocoles que vous faites tout seul, c'est jamais l'idéal. Mais quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait quand même amorcer du travail de renfort pour une tendinopathie, tu vois, rotulienne, quelles seraient les règles à respecter au niveau de la douleur? Tu as parlé 3-4 sur 10 pendant. Ce serait dès la première série, que sur la dernière série, et est-ce qu'il peut avoir mal après?
Alors, globalement, en fait, quand on rééduque une tendinopathie, il ne faut pas de douleur. Voilà. 3-4 sur 10. En fait, j'ai expliqué ça d'ailleurs à une patiente, la dernière patiente de la journée, là. Elle me disait, oui, comment je sais? En gros, quand tu as mal, c'est trop tard. Enfin, c'est trop. Gêne, c'est OK. Inconfort, c'est OK. Sensation désagréable, c'est OK. J'ai mal, tu as passé le cap de 3-4 sur 10. Parce que c'est vrai que nous, en tant que kiné, on dit oui, à peu près 3-4 sur 10 sur l'échelle de douleur, machin, etc. Mais le patient, pour lui, c'est pas forcément évident de. Encore s'il est sportif, il a un peu plus l'habitude, mais si c'est quelqu'un qui est pas du tout dans le monde du sport, c'est pas forcément évident de coter la douleur. En plus, ils ont tous cette phrase magique. J'ai jamais eu un patient qui m'a dit l'inverse, mais ouais, mais moi, je résiste bien à la douleur. C'est genre. Ça, c'est la phrase clé du patient. Moi,
Mais
franchement, je suis pas
100%
douillet,
des
je
gens qui
résiste.
viennent nous voir, ils ont mal, hein. C'est ça
Oui,
le.
voilà, c'est. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non, moi je suis douillet, franchement la douleur, je peux pas vous dire parce que je suis assez sensible. Non, c'est toujours moi, je résiste bien à la
Mais
douleur.
tu peux lui dire, bah, le 10 sur 10, je casse ta jambe. Et là, du coup, il
Ouais,
y
moi
a un pas de
j'appuie.
recul, du coup, il y a. Voilà.
Donc, du coup, ce que je leur dis, parce que ça, ils arrivent à peu près, voilà, vous avez une gêne ou un inconfort, c'est OK, vous avez mal, c'est plus OK. Donc, quand on rééduque une tendinopathie, il faut essayer au maximum de ne pas avoir ce mal. Que ce soit pendant la séance, 24 heures après la séance, 48 heures après la séance ou dans la vie quotidienne. Donc, et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup font. La rééducation d'une tendinopathie, surtout si elle est chronique, donc elle dure depuis plus de 3 mois, ça se fait à basse intensité au début. C'est vraiment, on commence tout doux. Parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, une triptyque, infiltration des vaisseaux sanguins et des nerfs, inflammation et surcharge. Et en fait, la première chose à faire, c'est d'arrêter ce cycle de dégradation entretenu par l'inflammation. Et autant dans les premiers jours, premières semaines, allez, de tendinopathie, quand elle démarre, on est sur une inflammation classique, avec des molécules inflammatoires, des macrophages, etc. Autant quand elle devient chronique, on passe sur une inflammation qu'on appelle neurogénique, où là, ça ne sert plus à rien de prendre des anti-inflammatoires et des choses comme ça. Il n'y a plus vraiment de molécules inflammatoires. L'inflammation neurogénique, elle est entretenue du coup par le système nerveux autonome périphérique et cette infiltration des nerfs sensitifs. Donc, c'est plus une question d'inflammation classique. Donc, nous, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est arrêter cette infiltration, cette dégradation, etc. Donc, faut arrêter l'intensité en fait. Quand on est dans ce moment-là, la haute intensité, c'est très intéressant pour développer le tendon. Mais avant de pouvoir le développer, il faut d'abord qu'il soit sain, quoi. Tant qu'il est pathologique, en fait, la haute intensité entretient. Parce que quand on met de la haute intensité, le tendon dégrade et produit. Sauf que là, il est déjà dans un cycle où il dégrade de trop. Tu mets de la haute intensité, tu majores la dégradation. Donc le patient hurle parce que ça lui fait mal et tu n'avances pas du tout. Tu ralentis le truc. Donc l'ésométrie, oui, dans un angle non douloureux et à basse intensité, que moi j'appelle à peu près du 40-50% au maximum. Et donc ça, on commence avec ces isométries-là qu'on va essayer de faire durer de plus en plus longtemps, jusqu'à essayer d'atteindre à peu près des trucs comme 2-3 minutes sur le tissu cible. Donc on peut les découper comme on veut selon ce qu'on est capable de supporter au début. On peut faire des je fais 4 séries de 20 secondes, puis je fais 3 séries de 30, puis je fais 2 séries de 45 secondes, puis je fais 2 séries de 1 minute, puis je fais une série de 2 minutes. On peut le découper comme on veut tant qu'on respecte la douleur. C'est tout l'intérêt de l'isométrie. Je m'arrête quand je veux. Donc, je m'arrête quand je sens que ça commence à dépasser. Donc, voilà. L'isométrie, en allant progressivement chercher un étirement de plus en plus important, progressivement, sans douleur, à une intensité qui est faible à modérée, donc entre 40 et 70% au maximum. Et on essaie d'aller chercher les 2 minutes. C'est la première chose à faire, rien que pour casser ce cycle de je dégrade, je dégrade, je dégrade.
Et là, au niveau de la fréquence, parce que tous les d'accord, jours. Moi j'ai écouté et je vais le faire 2 fois par jour. C'est trop.
C'est parfait. En fait, on sait que après une stimulation mécanique adaptée, donc ce dont on parle, les marqueurs de synthèse de collagène, donc c'est quand même l'élément clé dans les pathologies tendineuses, hein, c'est le constituant principal du tendon, ils augmentent à peu près pendant 24 48 et parfois 72 heures maximum. Après, ça s'arrête. Donc, il faut une stimulation extrêmement fréquente. Et tant qu'on est à basse intensité, on n'a pas besoin de récupérer puisque c'est de la basse intensité. Donc, en fait, on va essayer de solliciter le tendon le plus souvent possible en respectant une chose, c'est qu'il y a une période réfractaire, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine durée de stimulation qui est environ de 15-20 minutes, le stimulus ne passe plus dans le tendon, donc il ne s'adapte plus vraiment, pendant une période d'environ 6 heures. Donc en gros, moi, ce que je demande aux patients, c'est matin et soir. Tu fais tes 2 minutes d'isométrie, donc découpé comme tu veux, matin et soir. Okay. Bon, et après, là, tu as le droit où j'ai pas le temps. Bon, là, t'as pas 2 minutes le matin et le soir, on a un problème.
Il fume des clopes.
T'es dur, là.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Ah, moi, j'ai abandonné ce projet hein, de m'adapter avant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu fais ta rééducation. Le patient te dit j'ai pas le temps. Et puis toi, tu te sens coupable. Donc tu dis ok, vas-y, comment je vais raccourcir sa rééducation? Et tu raccourcis pour au final lui donner un truc qui au final est merdique. Et en fait, du coup, ça revient de ta faute si ça marche pas. Quoi, parce que tu as finalement filé un truc où il y a 2 exercices pour parce que ça doit rentrer en 5 minutes 30. Inutile.
C'est quoi les signaux qui te font passer à autre chose?
En fait, quand il y a une tendinopathie, on va avoir une amplitude qui va être douloureuse. Donc généralement, plus je vais aller en étirement, plus ça va être douloureux. Et donc, j'ai une amplitude qui est non douloureuse. L'isométrie à basse intensité va permettre plusieurs choses. La première, calmer l'inflammation neurogénique, calmer l'inflammation, la douleur. Démarrer les premiers marqueurs de synthèse de collagène. Donc, on amorce la construction. Et en termes de fonction, parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 choses qui comptent, la douleur, la structure et la fonction. En termes de fonction, ça va permettre de compléter l'amplitude douloureuse et la rendre non douloureuse. Donc progressivement, l'amplitude non douloureuse va manger l'amplitude douloureuse jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une amplitude de non douloureuse qui soit suffisamment grande pour démarrer un mouvement. Une fois qu'on a cette amplitude-là qui permet de démarrer un mouvement, on peut mettre en place l'excentrique, encore une fois, à basse intensité. Et en gros, on va pouvoir combiner les deux, l'isométrie et l'excentrique. L'isométrie va continuer son travail de compléter l'amplitude pour la rendre non douloureuse. Et sur l'amplitude non douloureuse, l'excentrique va commencer son travail de restructuration et de développement des niveaux de force.
Donc, tu as une exploration par l'isométrie de l'amplitude articulaire. Ça, c'est un truc qu'il faut bien préciser, je pense. Moi, je ne l'avais pas saisi, tu vois.
Ouais, c'est ça. En gros, l'isométrie va permettre, c'est ça, ouais. Ouais, vas-y, Pierre.
Et finalement, typiquement, par exemple, pour une tendinopathie d'Achille, l'étirement prolongé en position basse, c'est de l'isométrie.
Ah bah ouais. Ouais.
Donc on parle d'étirement, mais en fait on est toujours dans de l'isométrie pour toi, mais en course externe, en fait le tendon résiste à cette traction maximale.
En fait, alors là je te donne, c'est philosophique hein, ce que je te donne.
Allez, vas-y, dis-nous tout, là. Voilà, livre-toi.
Pour moi, il faut une heure quand même à Valentin pour s'ouvrir.
Hein. Ouais, ça y est. Lâche les chevaux, là.
Pour moi, tout est isométrique. On a défini trois modes de contraction. On a défini trois modes de contraction, donc excentrique, isométrique et excentrique. Mais si tu regardes bien ce qui se passe, c'est une contraction isométrique sur différents angles qui évolue au fur et à mesure avec une certaine vitesse plus ou moins grande. Donc, si je me rapproche de la course interne, je vais appeler ça un mouvement concentrique. Si je me rapproche de la course externe, je vais appeler ça un mouvement excentrique. Mais en soi, si tu ralentis le temps, c'est une contraction isométrique angle par angle. Okay ? Quand tu mets en position d'étirement un tissu, tu le fixes dans une position sur laquelle il subit une traction. Alors, c'est la plus petite qui existe, j'entends, mais ça reste une contrainte mécanique de traction. Donc, il y a une force qui s'applique sans changement de longueur. Ça s'appelle une contraction isométrique. Alors, d'une intensité très faible, j'entends, mais ça reste une contraction isométrique en fin d'amplitude. Ou tu pourrais dire, c'est aussi une contraction excentrique en fin d'amplitude, comme tu veux. Mais il faut arrêter de croire que l'étirement, c'est passif. On a appelé ça l'étirement passif, mais pour moi, c'est une aberration d'appeler ça étirement passif. C'est pas parce que consciemment, tu ne produis pas de force qu'au niveau de ton tissu, il se passe rien. D'ailleurs, il suffit de te mettre en position d'étirement, tu restes 5 minutes, on va voir si c'est passif. Hein.
Oui, et puis tu touches le muscle, il résiste, hein, il est là pour jouer son rôle.
Il n'y a rien de passif dans un étirement passif. Hein.
Et j'ai envie de parler de ça, c'est peut-être un peu trop tôt, mais on a eu JB Morin, donc Jean-Benoît Morin.
Mon tuteur de stage.
C'est vrai ? Et ben voilà, profil force vitesse.
C'est mon mémoire. C'est dans le thème.
Donc on l'a eu sur ça et là on l'a eu sur le trail, tu vois. Et en fait, il disait, on parlait du renforcement lié au trail et à un moment on est arrivé sur le mollet. J'étais pas totalement d'accord avec lui. Pour moi, tout ce qui est en dessous du genou, c'est un élastique et tout. Donc je vais le chercher un peu sur ça. Et il m'a quand même convaincu sur la force du mollet. Et il me dit, bah tu vois, quand ton triceps sural, donc le mollet quand le tendon d'Achille va s'allonger, en fait le muscle lui va se raccourcir parce qu'il va augmenter de la tension sur le tendon, tu vois. Donc il nous disait en fait l'intérêt de travailler ton mollet en force. Je sais pas si c'est vraiment la suite logique de l'épisode, mais voilà.
Bah disons que à un moment donné, alors je sais pas où JB voulait en venir. JB, mine de rien, c'est un prof que j'avais à la fac de sport quand j'étais au STAPS. C'est le premier mec qui m'a poussé à faire de la recherche. Donc, à l'époque, on travaillait ensemble sur le MyJump. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, l'application pour mesurer le profil de vitesse sur les sauts. Et je trouve vraiment c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et j'ai vu qu'il travaillait énormément sur le pied et le tendon d'Achille. Bon, il s'écarte un peu des ischios, il faudrait qu'il y revienne. Et comme on disait tout à l'heure, plus un tendon est raide, plus il y a besoin de force pour le déformer. Hein.
Et ouais.
Donc si tu veux déformer un tendon raide, t'as intérêt à avoir un muscle qui produit de la force. Typiquement, tu prends un sprinter qui sont probablement les athlètes avec les tendons les plus raides qui existent, ou les triples sauts, histoire comme ça. Tu mesures leurs quadriceps ou leurs mollets, on est sur des volumes sympas quoi. Ça squatte fort. Hein. Pour déformer le tendon d'Achille d'un sprinter ou le tendon d'insertion du droit fémoral ou des fléchisseurs de hanche chez un sprinter, il va te falloir des niveaux de force assez conséquents. Hein. Donc,
on parlait en fait des spécificités d'entraînement où l'idée étant soit d'entraîner en puissance, en endurance de force ou en force pure, si je ne me trompe pas. Et quand on est sur un tendon d'Achille, la force est vraiment extrêmement importante en termes de quantité. Hein. Et donc, si on veut entraîner en force un tendon d'Achille et pas que en endurance de force, il faut charger et c'est pas avec 20 kilos qu'on va pouvoir le faire. Ah. Voilà. C'était, je pense, dans ce contexte-là, le travail de force et non pas d'être ni en force, ni en endurance de force. Et ni en puissance.
Il veut pas le ni. Il veut pas.
mais le truc que je trouve qui est important à rappeler, parce que je fais quand même le contraste avec ce que j'ai dit juste avant, où quand on démarre une rééducation d'une tendinopathie, on est sur de la basse intensité. Très bien. Derrière, sur un tendon sain, Si on veut qu'il s'adapte, faut le déformer. Pour le déformer, il faut des hauts niveaux de force. Hein. Un tendon, en gros, il se déforme de 0 à 4% avec une intensité qui est comprise à peu près à 30-40% de force. Donc 0,4% de déformation, ça crée quasiment pas d'adaptation. Il se déforme de 4 à 6, 8% avec du 70-80% d'intensité de force. Donc là, on commence à avoir des adaptations. Et il se déforme à du 8-12%. Donc là, on est sur des grosses, grosses adaptations, mais gros risque de lésion aussi, sur du 100% d'intensité. Donc, si on veut avoir des adaptations dans le tendon, il va falloir mettre de la charge. Hein. Ça, c'est évident.
Mais respecter aussi la récupération de cette entité.
Ah, c'est sûr que là, du coup, on n'est plus sur la basse intensité, c'est plus deux fois par jour. Hein. Mmh. Sinon, on a un problème.
Tu vois, il faisait la complémentarité entre un renforcement analytique, travail en force du mollet, la structure, et puis après, il partait sur la fonction et il disait, en fait, vous pouvez faire autant d'exercices plio que vous voulez, vous n'avez qu'à sprinter, parce que le sprint, c'est là où il y a le plus de... Oula, ça fait une... Pas totalement d'accord ? Ok. Ouais. Vas-y.
Donc, non, mais après, j'y vais, il travaille sur le sprint.
Qu'est-ce que tu réponds à ça, alors, du coup ? Non, c'est pas le sprint qui met le plus de charge sur le tendon ?
Ah, je sais pas, mais j'aimerais bien voir le niveau de charge sur les bondissements, moi, hein, vers le haut, les sauts verticaux.
En fait, il disait qu'il était en train de travailler sur une étude qui allait sortir, où ouais. Les niveaux de force appliqués sur le tendon d'Achille et globalement sur le mollet étaient sans aucune comparaison entre un sprint et un travail de plio, box jump ou peu importe.
Si la science le dit, mais moi je. Par contre, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est parce que comme en fonction de l'angle dans lequel tu vas travailler tes niveaux de force, tu vas solliciter différents types de fibres musculaires. Le sprint, ça reste une poussée horizontale. Quid de la poussée verticale. Donc, ça veut dire qu'en gros, si je veux préparer mon basketteur, les tendons d'Achille d'un basketteur, c'est extrêmement fréquent qu'ils aient des tendinopathies ou des ruptures de tendons d'Achille. Donc, mon basketteur qui passe son temps à sauter, je vais le faire sprinter. C'est la meilleure des contraintes possibles pour son tendon d'Achille.
Bon, écoute, il faudra qu'on fasse une table ronde. On va organiser ça.
Pour revenir là-dessus, pour charger par exemple ischio et toute la chaîne postérieure, je pense qu'il parlait plutôt du trailer. Et pour charger le trailer, il disait que si vous n'avez pas de côte, vous pouvez faire du sprint donc à l'horizontale, mais avec un chariot lesté. Et donc, le changement de position au niveau du bassin simulait du travail de course en pente.
OK.
On s'éloigne. C'est passionnant. Mais on est obligé de se recentrer un peu. Je suis désolé de faire le modérateur.
Recentre-nous, Pierre. Ouais. Vas-y, là. Recentre-nous.
On a parlé membrane. On verra peut-être sur des modalités, par exemple, de prévention. Ceux qui nous écoutent, qui veulent éviter les tendinites. On n'a pas dit ça. Hein. Mais ceux qui veulent prévenir tout ça, on verra peut-être des modalités après. On a vu membrane, la chaise en exemple. Et en membre sup, sur une tendinopathie hyperalgique, que tu reçois, quel exercice isométrique tu proposerais
Alors moi je travaille beaucoup sur les rotations parce qu'en fait quand tu étudies un petit peu la coiffe, bon, parce que la majorité des tendinopathies touchent les tendons de la coiffe des rotateurs, donc comment le dire simplement, en gros c'est comme une chaussette autour de l'articulation de l'épaule, ça coiffe vraiment, ça c'est non hein, ça coiffe la tête de l'humérus au niveau de la glaine de l'omoplate. Toute cette pathologie, tous ces tendons peuvent être
fibres.
Exactement. C'est pour ça que moi j'aime pas trop l'anatomie en fait. C'est parce que je trouve qu'on ça dissèque un peu trop. On dissocie un peu trop les choses quoi. J'aime bien les choses un peu plus continuum, tu vois, les trucs voilà.
Chape.
Exactement. Ouais, ça j'aime bien. Ça je pourrais reprendre. Je te volerai peut-être le mot. Mais
c'est pas de moi.
En gros, on se rend compte que avec la rotation interne ou externe, on est capable d'aller solliciter ces fibres-là. Donc, tout ce qui est forcément plutôt insertion petit rond, infra-épineux, sus-épineux dans sa portion postérieure, on va aller chercher la rotation interne pour les mettre en position d'étirement. Donc, du coup, je vais faire mon isométrie progressivement vers la rotation interne. Donc, je contracte mes rotateurs externes, mais en rotation interne, en position d'étirement. Et à l'inverse, si j'ai ma pathologie sur l'insertion du subscapulaire ou des fibres antérieures du supraépineux, j'irai chercher mon isométrie, mais sur de la rotation externe. Donc moi, c'est comme ça que je rentre.
Et épaule à 90 degrés.
Alors, si j'ai pas de compression, et de syndrome sous-acromial. Donc après, je pose le coude dans un angle non douloureux. La règle, c'est toujours la même. Trouver un angle non douloureux dans lequel je peux venir solliciter mes fibres. Ensuite, j'irai titiller sur des mouvements d'isométrie plus spécifiques, sur comment recruter plus spécifiquement un tendon plutôt infra-épineux ou un tendon plus spécifiquement supra-épineux. Mais dans un premier temps, ma porte d'entrée, c'est sur la rotation.
Du coup, tu conseillerais aux auditeurs qui démarrent une rééducation par l'isométrie avec quoi? Un petit élastique, un petit poids, qu'est-ce que tu...
À la main. Toujours mieux servi à la main. On n'est jamais déçu. Tu viens ici, tu viens l'amener. Donc, imaginons que ce soit une tendinopathie du supraépineux. Supraépineux, la majorité du temps, c'est soit fibre profonde, soit fibre postérieure. Donc, on va aller chercher la rotation interne. Attention, plus je vais aller en rotation interne, plus je vais mettre mon tendon en position d'étirement, plus possiblement je peux déclencher de douleur. Donc je vais dans ma rotation interne maximale sans douleur. Donc une fois que j'arrive dans ma rotation interne maximale sans douleur, je vais contracter mes rotateurs externes et je vais appliquer mon isométrie. Je maintiens avec ma main. Je suis par exemple dans la position du sleeper stretch ou devant, oui, peu importe, comme ça, comme tu fais, mais il faudrait quelque chose qui soutienne le coude pour pas avoir de travail des abducteurs. Il faut pas qu'il y ait de tension là-dessus. Et je commence à travailler comme ça dessus. Et à l'inverse, quand je veux travailler sur mes rotateurs internes, je vais me mettre sur le ventre et je vais travailler dans le sol. Comme ça, je peux faire mon isométrie PIMA. C'est moi qui produis la force et je peux contrôler l'intensité que je vais utiliser. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est les mouvements et les fonctions prédominantes des tissus musculaires. Là, je sens bien arriver dans les commentaires, oh, le gars il fait des rotations alors que le supraspinatus il est abducteur. On est au courant, c'est pas ça. Mais là, on cherche une porte d'entrée où généralement, quand la personne est très algique, l'abduction, elle tolère pas, quoi. Donc, il va nous falloir un mouvement, une fonction qui permette de commencer à mettre des contraintes pour stopper ce cycle de dégradation, cette inflammation, tout ce cercle vicieux de la douleur, pour ensuite pouvoir transiter vers des mouvements et des renforcements plus spécifiques.
Mais ce supraépineux, franchement, quand on voit sa tête, est-ce qu'il est abducteur ou stabilisateur? Il participe à la stabilisation de cette gaino-humérale, mais qu'il soit moteur de l'abduction, quand on voit par contre, par rapport à lui, la taille que ça fait, un deltoïde moyen, et la composition même, c'est vraiment des fibres, c'est du rouge le deltoïde, versus un supraépineux, où tu manges ça, tu mets de côté ce truc-là, c'est du rouge.
C'est pas du steak, je ne sais pas quoi. Si vous avez déjà assisté à une dissection,
ouais.
Mais l'épaule, tu ouvres, c'était blanc. Hein. Bon, tu as le deltoïde et le pec, il faut que tu les enlèves. Quoi. Une fois que tu as enlevé ça, c'est tout blanc. Hein. Moi, j'aime bien. Oui, à la fois, j'ai juste comme question, j'aimerais hypertrophier mon supraépineux.
Non, mais qui personne va le voir. Hein.
Tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne va pas s'hypertrophier.
Et qu'est-ce que tu penses de la chaîne ouverte ou chaîne fermée? Moi, c'est vraiment une porte d'entrée aussi. On parle beaucoup de porte d'entrée. Et j'aime bien utiliser, que ce soit le membre sup ou membre inf, à chaque fois les deux fonctions, tu vois. Parce que notre bras, il est fait pour attraper quelque chose dans l'espace, mais il est aussi fait pour se repousser, tu vois. Et on change les points fixes, on change les points mobiles. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Complètement d'accord. Si c'est toléré, 100%.
Et je trouve que cette chaîne fermée est antalgique. En tout cas, elle permet d'accéder peut-être à des amplitudes avec moins de douleur, tu vois.
Du coup, ça répond forcément à la problématique, puisque comme l'objectif, c'est de rétablir l'amplitude dans un premier temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le continuum de la rééducation. Un, on rétablit les amplitudes, deux, les niveaux de force. Trois, la fonction. Donc, si ça permet de rétablir l'amplitude, ça a forcément sa place. Je sais qu'il y avait ce débat à un moment que j'ai jamais vraiment compris. Mais ça, c'est encore un problème de biomécanicien sur les LCA, rééducation du LCA, chaîne ouverte, pas chaîne ouverte, on attend. En vrai, on se rend compte qu'il y a ça, ce qu'il faut, c'est simplement de savoir si c'est toléré ou pas toléré. Est-ce que la contraction en chaîne ouverte est tolérée, oui ou non? Si c'est toléré, go.
Oui, globalement, le plus vite possible. Parce que moi, à chaque fois que je mettais du temps, c'était toujours problématique. Une autre question, Est-ce que tu peux finir, tu nous as parlé de l'isométrie, on est rentré dans la dynamique excentrique et puis on n'est pas allé jusqu'au bout, je crois. Ouais. Juste pour.
Et donc en fait, désolé, mais est-ce que tu peux juste nous dire l'isométrique, voilà. On est toujours sur ce patient hypothétique qui a une tendinopathie depuis 6 mois, qui gère ses à côté au niveau de sa vie. On discutera peut-être des modalités de qualité de vie à surveiller. Mais l'isométrie devrait durer 15 jours, 3 semaines. L'excentrique et après la plio, c'est quoi à peu près les ordres de grandeur?
Ouais, non, mais j'ai compris la nuance qu'il va falloir apporter. Mais en fait, pour moi, ça s'arrête jamais. C'est juste que la place que va prendre le mode de contraction dans la rééducation va réduire au profit d'un autre type de mode de contraction, mais ça disparaît jamais. Donc forcément, au début, l'isométrie, c'est quasiment 100% de la rééducation, selon ce qu'est capable de tolérer et du coup l'amplitude non douloureuse disponible. Quand j'ai commencé à avoir de l'amplitude non douloureuse disponible, je vais intégrer l'excentrique à basse intensité, je vais garder mon isométrie pour finir de la compléter, et en gros, au lieu d'avoir 100% d'isométrie, bah, je vais avoir 80% d'isométrie, 20% d'excentrique. Quand mon isométrie a fini son travail, c'est-à-dire que j'ai toute mon amplitude qui est disponible, bah, je vais conserver de l'isométrie en fin d'amplitude pour continuer à améliorer la qualité de l'alignement des fibres, de la sécrétion de collagène, etc. Mais en gros, ça va devenir 50%. Mon excentrique, il va travailler sur toute l'amplitude, ça va devenir 30% ou 40%, et je vais rajouter 10% du protocole HSR, donc du lent et du lourd. Et puis quand mon protocole HSR il passe, etc., l'isométrie va devenir 30%, mon excentrique va devenir que 20% et mon HSR 70%. Quand mon HSR, j'arrive à peu près à faire mes 3 fois 6 RM, qui est à peu près l'objectif sur un HSR. Donc 3 fois 6 RM, 3 secondes, 3 secondes en tempo, donc excentrique, concentrique sur la complète amplitude, bah, je vais avoir là où j'intègre, moi ce que j'intègre et qui n'est pas trop utilisé encore en France, c'est les isométries balistiques et oscillatoires. Donc je vais commencer à mettre des mouvements de vitesse avant la pliométrie. Donc en gros là, mon isométrie c'est plus que 10%, mon excentrique c'est plus que 10%, le HSR c'est 50% et j'ai mes isométries balistiques oscillatoires qui représentent 20%.
Et le HSR, s'il te plaît.
HSR, heavy slow resistance. Donc, okay. C'est le fait d'utiliser des charges lourdes avec une vitesse lente.
Et contrôlée.
Dans l'idée, le protocole de base, qui peut être adapté évidemment, mais le protocole scientifique de base, c'est on part d'un 3 x 15 RM, donc répétition maximale, avec un tempo de 3 secondes, 3 secondes. Puis on va évoluer vers un 3 x 10, vers un 3 x 8, vers un 3 x 6 RM. Donc on va vraiment finir par charger ce tendon. Toujours avec le même tempo. Et si possible, un tempo, et ça, c'est les travaux de Bonnie Rio, donné par un environnement externe. Donc un métronome ou un écran, pas la personne qui compte. Parce que dans les tendinopathies, il y a aussi un désordre cortical. Donc il y a une inhibition généralement du muscle qui s'attache sur le tendon qui est abîmé. Et donc il y a aussi tout un système cortical à rééduquer. Et il s'avère que l'utilisation d'un métronome participe à cette rééducation-là. Donc, autant utiliser pendant cette période-là et mettre le métronome pour compter. Donc, ça, c'est le HSR. Et donc, une fois que, je ne sais plus ce que j'ai donné comme pourcentage, mais quand je fais 10-10, 50 de HSR et 70-30% de l'isométrie balistique oscillatoire, et ben à la fin, j'enlève l'isométrie où je réduis le HSR et j'intègre la plio. Mais il n'y a pas de moment où l'isométrie disparaît, il n'y a pas de moment où l'excentrique disparaît, etc.
Mais par contre, il y a quand même un moment où tu vas changer la fréquence de mise en charge, puisqu'on était sur du bicotidien, sur de l'isométrique. Et quand on va passer sur du travail excentrique, à ce moment-là, tu serais sur quoi ? 3-4 fois par semaine ?
En fait, moi, ce que je fais, c'est que l'isométrie, donc basse intensité, c'est 2 fois par jour au début, plus 1 fois par jour sur l'excentrique très basse intensité s'il y a une amplitude disponible. Donc ça, c'est sa routine. Il a les 3 trucs à faire. Donc 2 fois par jour l'isométrie, 1 fois par jour l'excentrique. Quand il arrive à faire l'excentrique sur toute l'amplitude, c'est là où le HSR va rentrer en jeu. Et en fait, l'excentrique va rentrer que dans une séance rééducation avec le HSR qui sera fait 3 fois par semaine. Donc il a toujours ses isométries 2 fois par jour ou 1 fois par jour. Et il va avoir son HSR 3 fois par semaine avec l'excentrique en échauffement, entre guillemets. Ensuite, on va avoir l'apparition des isométries balistiques oscillatoires, donc l'incrémentation de la vitesse. Ça sera 2 fois par semaine. Donc, il aura toujours ses isométries une fois par jour, son HSR trois fois par semaine et ses exercices de vitesse deux fois par semaine, qui peuvent être faits à la fin du HSR. Hein. Pas besoin de faire 8 séances. Hein. Et du coup, après, quand les isométries balistiques oscillateurs passent, il y a la pliométrie qui rentre en jeu. Et s'il n'a pas déjà trop de pliométrie dans son quotidien, c'est-à-dire que c'est genre pas un coureur à pied, il la fait deux fois par semaine.
C'est carré.
C'est carré, mais mon expérience perso me dit que on loupe un truc, tu vois, parce qu'on reste sur le régime de contraction et moi j'arrivais pas à passer un cap du lourd lent à la plio, tu vois, la plio passait pas, tu vois, et en fait le cap est passé où je me suis remis à courir, tu vois, où j'ai retrouvé la fonction. Et donc à un moment, bah c'est une erreur perso, tu vois, mais ça m'a vraiment aidé sur les rééducations que je mène maintenant. C'est que le continuum que tu décris de rééducation est magnifique, mais ça, sans associer une remise en charge progressive liée à la fonction, à l'activité physique, on loupe peut-être un truc.
Bah, le truc, c'est que la course à pied, c'est le reste de la pliométrie extensive, hein, c'est de la pliométrie basse. Donc, c'est une manière de réintégrer la pliométrie. Peut-être que parfois, on réintègre la pliométrie à trop haute intensité, trop vite. C'est-à-dire qu'on est persuadé que la pliométrie, c'est des bons. Mais des bons, c'est déjà des contraintes assez élevées. C'est pour ça que moi, j'utilise ces deux types d'isométrie, la balistique et oscillatoire, parce que ça me fait cette transition entre le mouvement lent contrôlé vers le mouvement rapide de la pliométrie. Alors, elles sont pas indispensable, mais il va bien falloir faire une transition, et la course à pied peut être une transition, une course à pied avec des chaussures avec un gros drop, par exemple, c'est une transition tout à fait raisonnable vers de la pliométrie plus intensive.
Ou de la corde
à sauter, ou... En fait, le problème, c'est que les gens ont en tête pliométrie, je saute. Mais sauter...
Calme-toi.
Voilà, c'est pas sans contrainte pour le tendon d'Achille, quoi. Donc la course à pied qui est des mini-bonds, c'est ça, la course à pied, c'est des mini-bonds. Hein. Bah, parfois, c'est justement l'intensité de pliométrie nécessaire pour faire cette transition.
Et tu vois, il y a un aspect mental, je pense, aussi.
Ah oui.
De ouf.
Ouais. Là-dessus, tu as 100% raison.
Tu vois, là, le continuum que tu décris, c'est si on se focalise sur l'adaptation, la charge mécanique qu'on met.
C'est de la théorie.
Mais c'est aussi de la charge de mental. On reprend confiance. Voilà, tu vois, l'isométrique, d'un coup, on bouge nos épaules ou nos jambes. Enfin, on peut pas dissocier.
100%. Moi, ce que j'ai décrit, c'est quelque chose de théorique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme on parlait d'un patient hypothétique, c'est quelque chose de théorique et qui, de toute façon, si vous l'appliquez comme ça, ne marchera pas. Enfin, marchera de temps en temps, mais généralement, vous serez confronté à un mur, parce que si c'était aussi facile. Je suis pas un génie, tout le monde ferait pareil. Donc là où réside le génie du physio ou du kiné, c'est dans sa capacité à comprendre que ok, là je rencontre cet obstacle, comment je le fais sauter? Est-ce que le gars a vraiment besoin que je le bourrine en HSR, en plio ou machin, etc.? Est-ce qu'il a pas besoin peut-être de sortir de son rôle de patient et de redevenir juste athlète et de repartir courir? Est-ce que c'est pas son alimentation qui foire à ce moment-là? Est-ce que le mec dort? Est-ce que le mec mange? Des fois, c'est des variables. Est-ce que sa femme est en train de le quitter, donc il dort pas, il est stressé? Ben, je veux dire, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais encore une fois, il y a une approche biopsychosociale à prendre en compte. Le protocole que j'ai cité, c'est l'approche bio. Et l'approche psychosociale, faut clairement l'intégrer, quoi.
C'est parfait. Je pense que la transition est toute faite. Vincent, je sais pas ce que t'en penses. Peut-être on pourrait faire une seconde partie, qu'on enchaînerait là maintenant, où on parlerait, tu vois, de prévention pour deux types, par exemple, de sportifs, de voir qu'est-ce qu'ils pourraient implémenter et quels seraient les facteurs.
Moi, je vous le dis, il y a l'OM qui va jouer là et y a ma femme qui est arrivée aussi dans l'appartement. Donc, on se fait une capsule.
Ouais, on se fait une capsule, ouais.
Allez, vas-y.
C'est pas mal.
C'est quoi une capsule, pardon, pour les non-initiés?
C'est vraiment, on va t'englober là. On va partir ensemble.
J'ai me l'enveloppe dans la lucarne.
Bien sûr, toujours, tu connais. Avec l'extérieur du pied en plus.
Bon, écoutez, pour tous ceux qui sont encore avec nous,
je change de position, moi.
Avec Valentin. Hein, merci à tous de nous avoir écoutés. Forcément, c'est Valentin Copin. Sur les réseaux, c'est Motion Therapy Expert. Vous pouvez, on mettra le lien de tes réseaux sur le descriptif de la vidéo,
ouais,
pour que les gens puissent te retrouver, parce qu'il y a quand même, tu nous donnes beaucoup d'informations, mais forcément, pour les professionnels de santé, on peut aller plus loin avec toi avec des formations que tu proposes. Tu formes toute l'année? Juste parle-nous-en deux minutes.
Toute l'année, ouais, effectivement. Là, j'ai du coup, alors je sais pas quand l'épisode sortira, mais il y a la formation Tendon Révolution que j'ai sortie. C'est vraiment une formation qui a pour but en fait d'évoluer, donc de devenir une espèce de forum sur lequel il y aura des protocoles, des vidéos. Il y a les modules explicatoires pour comprendre la théorie, du coup, pourquoi on applique les protocoles et les vidéos. C'est vraiment ça, c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur parce que je voulais éviter que des kinés se retrouvent un peu comme moi, c'est-à-dire avec une certaine perte d'estime de soi parce que tu te retrouves face à des échecs thérapeutiques parce que tu n'y arrives pas. Du coup, tu commences à douter et tu remets en question ta pratique. Donc, je voulais offrir ces solutions-là. Donc, ça, Tendon Révolution qui est disponible sur mon site motiontherapyexpert.com. Et après, oui, j'interviens souvent dans les CQP ou dans les formations privées ou à la fac de sport quand j'en ai l'opportunité.
Magnifique. Bon, mais écoutez.
Bah merci, hein, t'étais à 1000%, on s'est régalé. Hein.
Oui, carrément. Bon, pour tous ceux qui nous suivent encore, mettez un petit commentaire pour référencer la vidéo. Ça remercie aussi le travail qu'on fait, mais surtout les intervenants qui prennent du temps pour exposer toutes leurs connaissances. C'est toujours des moments précieux pour tout le monde.
Salut tout le monde.
On se retrouve pour le prochain épisode, pour la partie 2.